Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Clément Daté.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Il y a à peine plus de 20 ans, le 1er janvier 1999, l'euro était adopté par 11 pays européens. Une monnaie unique qui s'accompagnait alors de promesses de croissance et de stabilité pour l'ensemble de la zone. Deux décennies plus tard, la crise grecque est passée par là et la défiance des peuples envers une devise jugée responsable de la hausse des prix n'a cessé de grandir. Ces dernières années ont été marquées par des débats passionnés autour du nécessaire maintien de l'euro ou de son possible abandon. Quelques semaines avant les élections européennes qui se tiendront au mois de mai, quel bilan peut-on dresser d'une monnaie qui cristallise tous les reproches adressés à l'Europe ? L'euro est-il, malgré les critiques, un succès économique ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons débattre des réussites et des échecs de l'euro et surtout de son avenir en compagnie de Christian Saint-Étienne, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers et auteur de « Osons l'Europe des nations » paru aux éditions de l'Observatoire, en compagnie également de David Kella, maître de conférence à l'Université d'Angers, co-auteur de 10 plus une question sur l'Union européenne qui sort demain aux éditions Michalon. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées comme chaque jour par Arjuna Andrade. Christian Saint-Étienne et David Kella, bonjour.
Bonjour.
Merci bonjour. Beaucoup d'être avec nous. L'élection présidentielle de 2017 avait été marquée, on s'en souvient, par les ambiguïtés de Marine Le Pen autour d'une possible sortie de l'euro. Depuis, le Rassemblement national a officiellement abandonné cette idée et la coalition italienne, qui rassemble deux partis eurosceptiques, la Ligue et les 5 étoiles, a réaffirmé son intention de conserver l'euro. Par ailleurs, selon un sondage réalisé par la Commission européenne et rapporté par les Échos, 74% des Européens ont une opinion favorable de la monnaie unique. On a presque envie de parler d'un retour en grâce de l'euro, David Kella.
C'est-à-dire que politiquement, c'est vrai que le débat, on a l'impression qu'il n'avance pas beaucoup. Concrètement, on voit effectivement des partis politiques qui étaient absolument contre l'euro, comme le Rassemblement national, anciennement le Front national, et puis aujourd'hui qui mettent un peu d'eau dans leur vin. Et puis, moi, ce qui m'embête, c'est que derrière l'euro, et puis alors il y a d'autres intellectuels qui sont extrêmement farouchement opposés à l'euro, mais le problème c'est que derrière l'euro, en fait, il y a toutes les politiques économiques qui sont aujourd'hui très encastrées dans les règles de l'Union européenne, et à force de s'écharper sur la question de l'euro, on oublie qu'en fait, l'ensemble des politiques économiques menées aujourd'hui dans les pays de la zone euro et même plus largement dans toute l'Union européenne ne sont pas déterminées que par la question de la monnaie unique. Donc je pense que le débat n'est pas toujours très bien posé.
Est-ce qu'on a tendance, Christian Saint-Étienne, à faire de l'euro le bouc émissaire de tous les maux de l'Europe ?
Le bouc émissaire, c'est plus compliqué. L'euro, si on essaye de résumer des 25 ans de débat, avec effectivement des gens qui ont des positions très arrêtées, l'euro est à la fois un succès technique et un échec stratégique. Alors c'est un succès technique parce qu'il existe. C'est bien la monnaie au quotidien de 320 millions d'habitants de la zone euro. C'est bien une monnaie qui compte au plan international, même si elle vient très très loin après le dollar, ce qui est déjà un petit indice sur l'échec stratégique. Mais donc la monnaie existe. Pour la partie de la population qui se déplace en Europe, c'est agréable de ne pas avoir à faire des opérations de change. Bon, très bien.
Donc
c'est ce que les gens voient. C'est ce que les gens voient quand on n'analyse pas plus profondément. En revanche, c'est un échec stratégique sur deux... Alors je précise tout de suite pour les auditeurs, vous savez qu'on a tous deux cerveaux, un cerveau reptilien et un cerveau plus moderne et rationnel. Je précise tout de suite au cerveau reptilien de nos auditeurs que je suis plutôt pro-européen, parce que je vais être très sévère sur l'euro, donc il ne faut pas que les gens, inconsciemment et malgré eux, imaginent que je suis anti-européen. Donc... cette remarque étant faite, c'est un échec stratégique. Pourquoi ? Parce que si on a fait l'euro, c'était pour créer, vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, une zone économique dynamique. C'est pas du tout ce qui s'est passé. On se traîne en termes de croissance. Tous les chocs, on les prend avec une violence plus grande que partout ailleurs. La crise de 2008 était financière et américaine. Le ministre allemand à l'époque, fin septembre 2008, deux semaines après la faillite de Lehman, dit publiquement, ce qui montre d'ailleurs qu'il faut toujours se méfier des années stratégiques des Allemands, c'est une crise financière et américaine, nous sommes industriels et européens, nous ne serons pas touchés. En fait, l'Europe a payé deux fois plus que les États-Unis depuis. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va certainement analyser dans l'émission. Mais c'est un échec en termes de croissance. Il faut juste dire aussi que l'euro devait favoriser la convergence des performances économiques. C'est à la divergence qu'on assiste. Un dernier point sur ce sujet. Le niveau de vie relatif des Français, Italiens et Espagnols a baissé pour les Français par rapport au niveau de vie allemand sur les 10 dernières années de 11 à 12%. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un échec considérable, notamment pour la France, et en partie lié à la mauvaise politique qu'on a pu mener. Pour les Italiens, c'est 15%. Pour les Espagnols, c'est un peu plus. Donc, c'est pas la convergence, c'est la divergence. Donc, on a un vrai problème stratégique.
On va revenir sur tous ces points, évidemment. Mais d'abord, il faut dire que le projet de monnaie unique était déjà dans les esprits dans les années 60, mais c'est le traité de Maastricht en 1992 qui va poser les fondements de l'euro. Je vous propose d'écouter Thierry Pech, le directeur général de la Fondation Terra Nova.
Je crois que Maastricht a commis deux péchés originels, d'une certaine manière. Le premier péché originel, c'est que c'était une construction inachevée. C'était l'idée qu'on pouvait faire la monnaie commune sans faire derrière une union budgétaire, sans mettre en place des principes de solidarité entre les États membres, bref, sans aller plus loin. Et la génération Chirac-Schröder était une génération particulièrement paresseuse. Donc la construction est restée inachevée jusqu'à la crise de l'euro. Et on a fait d'ailleurs, dans cette crise de l'euro, plus de chemin en 3-4 ans qu'on en avait fait dans les 10 années qui avaient précédé. Donc c'était bien la preuve que ça fonctionnait pas. Le deuxième péché originel, c'est qu'on fait pas l'Europe par les règles, on la fait par les choix politiques. Et on a pensé qu'on pouvait enfermer l'Europe dans les règles que vous venez de citer. Pas plus de 3% du PIB de déficit, pas plus de 60% de dette sur le PIB, enfin toute une série de règles qui évidemment sont venues s'écraser sur le mur de l'histoire, parce que l'histoire et la réalité ont toujours plus d'imagination que nos règles.
Voilà, un extrait de la matinale de France Inter du 1er novembre 2013. Vous êtes d'accord avec Thierry Pech, David Kella, les failles de l'euro étaient déjà présentes en puissance dans le traité de Maastricht?
Oui, je suis d'accord avec à la fois ce qu'a dit Christian Saint-Etienne et ce qu'il vient de dire Thierry Pech. C'est-à-dire que on a effectivement une monnaie incomplète, une monnaie fondée sur des règles. Et je suis aussi d'accord sur le fait que cette monnaie, elle pose des problèmes, et en particulier le principal problème qu'elle pose, enfin on va y revenir, c'est les mécanismes de divergence qui sont induits par l'existence de l'euro. Mais il y a eu une étude là récemment d'un organisme de recherche allemand qui, par une méthodologie qu'on peut critiquer, mais qui disait que concrètement l'euro avait bénéficié à l'Allemagne, aux Pays-Bas, et il avait au contraire pénalisé la croissance de l'Italie, de la France et d'autres pays.
Chaque Français aurait perdu 56 000 euros sur la période qui s'étale de 1999 à 2017, parle de la même étude du Centre de politique européenne.
Exactement. Alors le problème, c'est qu'il faut quand même nuancer, parce que le problème, c'est que il s'agit d'une extrapolation de la croissance potentielle que, soi-disant, la France aurait eu s'il n'y avait pas eu l'euro. Et pour savoir, ils ont commencé à mettre le curseur au milieu des années 90. Alors moi, la critique que j'aurais par rapport à cette étude, c'est que en fait, on ne sait pas, on peut pas déterminer qu'il s'agit bien uniquement de la question de l'euro qui fait diverger les économies. Et moi, enfin dans mon travail, ce que je démontre, c'est que les règles du marché unique qui sont mises en place en même moment que l'euro, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire, c'est l'acte unique de 86, et puis ensuite toute la mise en œuvre de la concurrence libre et non faussé qu'on va voir dans les années 90 en fait se mettre en œuvre.
Donc qu'est-ce qui est dû au marché unique, qu'est-ce qui est dû à l'euro?
Et bien, on ne sait pas,
c'est ça qu'il
fait.
Est difficile de savoir.
Et donc quand on parle des problèmes économiques européens, il faut qu'on soit capable de distinguer ce qui est au cœur des règles, et Thierry Pech en parlait, c'est-à-dire un fonctionnement par les règles qui en fait date de 86, enfin d'avant, mais il a été extrêmement renforcé à 86, et puis de la question spécifique de la monnaie unique. Parce que si on considère qu'en sortant de la monnaie unique, on sort des règles, c'est faux. Parce que l'essentiel des règles qui entraîne un effet de polarisation industrielle, c'est-à-dire une concentration de l'industrie dans l'Europe du Nord et une disparition industrielle de l'Europe du Sud, ne viennent pas forcément que de l'euro.
Et vous parliez des effets de divergence que pouvait avoir entraîné l'euro. Or, Maastricht prévoyait justement justement une coordination renforcée des politiques économiques qui a débuté en 1994. Alors quels outils étaient censés permettre justement cette convergence, Christian Saint-Étienne, et pourquoi selon vous ont-ils échoué?
Bon, c'est pas simple, hein, mais on a fait une coordination d'apparence. Alors, il faut savoir qu'une union monétaire, par nature, elle conduit à la spécialisation des territoires qui la composent. Donc, si vous prenez l'union monétaire du franc, si vous prenez les 13 régions françaises actuelles, les 13 régions ne sont pas spécialisées sur les mêmes activités. C'est pareil, les 50 États américains ne sont pas spécialisés sur les mêmes activités. Une monnaie conduit à la spécialisation des territoires. Alors, comment ça tient quand il y a une spécialisation de ce type? Il faut savoir, deuxième élément, que les activités n'ont pas les mêmes niveaux de valeur ajoutée. Donc les régions qui vont avoir des activités industrielles auront une valeur ajoutée plus élevée que celles qui sont dans le tourisme. Donc comment ça tient ensemble? Si c'est la France, 13 régions, ben nous avons un colossal budget de redistribution. Alors c'est peu connu par nos auditeurs et en ces temps on n'aime pas les Parisiens, puisque dans l'émission précédente on parlait comme si c'était des étrangers par rapport à un petit village qui venait d'être rénové. Les Français ne savent pas que l'Île-de-France c'est 30% du PIB de la France et seulement 22% des revenus. Et le reste c'est une colossale production de richesses qui est redistribuée sur l'ensemble du territoire.
Donc, toute la question, c'est ce qu'on peut faire à l'échelle de l'Union européenne, ce qu'on fait à l'échelle d'un pays souverain.
Aux États-Unis, vous avez une considérable redistribution entre les 50 États. Et la redistribution aux États-Unis se fait par le budget fédéral qui fait 20 points de PIB, qui monte à 25 points de PIB dans les moments de crise. En France, c'est 56 points de PIB. Au niveau européen, il n'y a pas de budget de la zone euro. Alors là, c'est un point clé. Hein.
Il y a une ébauche de budget de la zone euro.
Enfin, ça fait 20 ans qu'on n'en a pas. Et surtout, il y a un point technique qui est très très important pour les auditeurs, qui conduit à ce qu'on s'amuse quand on écoute les joutes politiques. Là, on parle du budget de la zone euro. On ne parle pas du tout du budget de l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne, on s'en fout. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Le budget de l'Union européenne, il porte sur l'agriculture à 35% et les transferts à des pays qui ne sont pas dans la zone euro pour à peu près un montant équivalent. Donc, ce qui compte, c'est un budget dans la zone qui partage la même monnaie. Et là, il n'y en a pas de budget. La France essaye depuis 15 ans de faire émerger un budget de la zone euro, mais il y a eu plusieurs niettes successives en 2018-2019 de l'Europe du Nord contre un budget de ce type. Donc, ça veut dire que on n'aura jamais, si on ne met pas en place un budget spécifique à la zone euro, de redistribution permettant de tenir ensemble des territoires qui n'ont pas la même valeur ajoutée, et d'une part. D'autre part, et ça c'est un point très important que je développe beaucoup, j'écris sur l'Europe depuis un quart de siècle, je crois que je suis le premier à avoir bien montré que l'Union européenne a été construite sur la concurrence fiscale et sociale. Ça, c'est très, très important. C'est une négation de l'Europe libérale, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des opinions antilibérales pour penser ça. Vous ne pouvez pas avoir un système qui fonctionne si tout le monde n'a pas les mêmes règles. S'il y a des coureurs qui ont les pieds liés et d'autres qui ne les ont pas, on ne peut pas dire que c'est une course honnête.
On retrouve cette idée d'une intégration européenne inaboutie. Je voudrais entendre David Kella là-dessus. Est-ce qu'il aurait fallu harmoniser les politiques fiscales et sociales, effectivement, des différents pays de la zone euro?
Le problème, c'est que toute l'Union européenne ne s'est pas construite sur ce projet-là. C'est-à-dire que l'idée de la subsidiarité qui est au cœur des principes fondateurs de l'Union européenne, c'est l'idée que laisser un certain nombre de prérogatives aux États et puis certaines prérogatives nécessaires qu'il faut prendre en considération à l'échelle supranationale, l'échelle européenne, eh bien on va les déléguer à souvent des instances d'ailleurs qui sont pas forcément élues, ce qui pose d'autres problèmes. On considère que la fiscalité qui est au cœur des démocraties et au cœur des votes parlementaires doit être l'apanage des États, de même que la protection sociale. Et moi j'entends bien et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Christian Saint-Étienne sur le fait que aujourd'hui on est dans un système extrêmement concurrentiel et qui n'est pas une bonne concurrence. C'est-à-dire c'est une concurrence France, qui se fait toujours au moins 10 ans, sur le moins 10 ans, avec des taux de fiscalité qui sont extrêmement faibles et parfois des pratiques même qui visent à détourner l'activité économique d'un pays vers un autre.
Les bénéfices d'une monnaie unique n'existent que si il est pertinent de former cette monnaie unique, parce que les avantages peuvent se transformer en inconvénients. Alors, quels sont les avantages habituellement espérés? Eh bien, ce sont d'abord le fait que le taux de change a disparu. Et le taux de change a disparu veut dire que l'incertitude sur l'évolution des prix dans les échanges entre les pays membres de l'Union, eh bien, cette incertitude disparaissant, ceci est très favorable, évidemment, aux transactions internationales internes à l'Union, qui doivent se développer. Le deuxième avantage qui va avec, c'est que la concurrence doit s'accroître grâce à ce développement de ces échanges sur un espace plus large, donc sur des marchés plus grands, et on peut en espérer deux choses, c'est-à-dire une baisse des prix pour les consommateurs du fait qu'il y ait plus de concurrence et une meilleure rentabilité pour les producteurs du fait que la taille du marché est plus importante pour chaque producteur.
L'économiste et spécialiste de la monnaie, Michel Aglietta, lors des journées de l'économie en octobre 2015, on entend bien ici les avantages espérés de l'union monétaire, avantages qui n'ont finalement pas eu lieu, David Kayla.
Oui, non, je voulais revenir sur une chose, parce que Christian Saint-Etienne expliquait à juste titre, mais j'aimerais apporter une nuance, que l'union monétaire crée un grand marché qui va spécialiser les régions. Je suis d'accord, mais il faut bien comprendre que l'Union européenne, indépendamment de l'Union monétaire, de l'euro, a déjà organisé ce grand marché via le marché unique. Et l'euro, en fait, parachève. Donc c'est vrai, ça parachève et ça permet justement d'organiser cette concurrence. Mais en fait, on a déjà une liberté totale des mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans mes travaux, c'est que ces effets de spécialisation et de polarisation, eh bien, ils se font non pas uniquement à l'échelle de la zone euro, mais à l'échelle de l'Union européenne dans son ensemble. Regardez comment aujourd'hui, le seul pays en Europe qui gagne en emploi industriel, c'est la Pologne. Pourquoi ? Parce qu'elle bénéficie à la fois d'un coût du travail très faible et de sa proximité géographique avec l'Allemagne. Et la Pologne n'est pas dans la zone euro. Il faut voir aussi que toutes les monnaies autres, eh bien, sont rattachées à l'euro. Alors, bien sûr, parfois, il y a des dévaluations, mais elles suivent en gros le cours du change de l'euro. Et donc, c'est pour cette raison que, autant je suis d'accord pour dire que l'euro a un effet important, autant je pense qu'il ne faut pas limiter la question à juste la question de l'euro.
En revanche, là où l'euro a un effet très important, c'est le fait que la BCE impose les taux directeurs aux économies de la zone euro. Mais le problème, c'est qu'un même taux directeur n'aura pas les mêmes effets sur toutes les économies. Tout va dépendre du taux d'inflation du pays. Christian Saint-Etienne, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, ben, je voudrais revenir là sur cette question parce que c'est encore plus important. Dans un ensemble économique, il peut y avoir une concurrence sur les marchés de biens et services ou une concurrence sur les normes. Aglietta parlait à l'instant d'un bénéfice attendu de la concurrence sur les marchés de biens et services. La concurrence sur les marchés de biens et services, si elle est encadrée, elle est toujours bonne. Mais la concurrence par les normes, elle est contre nature. Aux États-Unis, entre les 50 États américains, vous n'avez pas de concurrence fiscale et sociale. Tous les systèmes, les grands systèmes fiscaux et sociaux américains sont fédéraux. Mmh. La seule différence, c'est les taxes à la consommation par État, mais comme c'est des taxes finales et pas des taxes à la valeur ajoutée, ça ne pose pas de problème de compétitivité. Donc, c'est une négation de faire une union monétaire et une union économique sans avoir, alors non pas une harmonisation, mais une coordination fiscale et sociale. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a signé le traité de Rome en 57, mais qu'on a négocié en 56, ce sont les Allemands qui, dans la négo, ont imposé la notion de concurrence. Mais à l'époque, ça voulait dire uniquement concurrence sur les marchés de biens et services. Mais ensuite, il y a eu le traité de Maastricht de 91, signé en 92, qui, lui, à la demande des Britanniques, a laissé toutes les décisions en matière fiscale et sociale à l'unanimité. Et donc, a écrit dans le corpus de traités européens le fait que on ne pourrait plus jamais aller vers une coordination et encore moins une harmonisation fiscale. Mmh. Et dernier point sur ce sujet, évidemment personne veut une harmonisation sur les taux de fiscalité français, puisque même les Français n'en veulent pas. C'est pour ça que vous avez des gilets jaunes. Donc il faudrait baisser la fiscalité, mais le point central, c'est qu'on ne peut pas la baisser indéfiniment. Donc il faudrait, je pense, au minimum pour que l'Union européenne dure, sinon à mon avis, et l'Union européenne et l'Union et l'euro ne dureront pas, c'est qu'il faudrait au moins avoir des minima fiscaux et sociaux. C'est-à-dire, par exemple, dire on ne peut pas avoir un taux d'IS inférieur à 20%, on ne peut pas avoir une fiscalité de l'épargne inférieure à 20%. Si un pays veut avoir un taux d'IS à 35, c'est son problème. Mais si jamais il baisse en direction de la moyenne des autres pays, il ne faut pas qu'un pays comme l'Irlande, qui est déjà à 12,5, l'Irlande a les moyens financiers demain de supprimer l'IS. Or, non, c'est la négation totale d'avoir une union comme ça.
Alors, on a bien compris les conséquences de cette concurrence sociale et fiscale dont vous parlez, Christian Satillan, mais je voudrais revenir à cette question des taux directeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le fait que les pays ne puissent plus avoir recours à la dévaluation, ou peut-être David qui est là peut nous répondre sur cette question, pose un certain nombre de problèmes?
Alors, attendez, parce qu'il y a deux questions. Dévaluation et taux directeur sont deux choses différentes. Alors, effectivement, pour reprendre la question de tout à l'heure, la politique monétaire, c'est une politique qui vise à refinancer les banques commerciales par la banque centrale via des taux, ce qu'on appelle les taux directeurs, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui sont généraux pour des prêts à court terme. Alors c'est par ce mécanisme-là que les banques commerciales vont ensuite accorder elles-mêmes des prêts, c'est ce qu'on appelle le processus de création monétaire. Alors le problème qu'il faut bien comprendre, c'est quand on a une zone euro avec de très nombreux pays qui ont des économies tous différentes, eh bien, comme on a la même monnaie, eh bien, les taux directeurs ne peuvent pas être différents d'un pays à l'autre, et donc on doit avoir les mêmes taux d'intérêt pour toutes les banques qui vont répercuter ces taux d'intérêt dans les taux d'emprunt auxquels les gens vont eux-mêmes emprunter. Alors le problème, c'est que ces taux d'intérêt, en fait, dépendent de l'inflation. C'est-à-dire que, du point de vue de l'emprunteur, ce qui est important, c'est pas le taux nominal, c'est-à-dire si on a un taux de 3%, par exemple, qu'on va payer un 3% d'intérêt, ça va être en fait la question du taux, ce qu'on appelle le taux réel, c'est-à-dire l'écart entre le taux nominal et le taux d'inflation. Et donc, si vous avez une inflation à 3% également, eh bien, en fait, le taux d'intérêt auquel vous empruntez, réellement, il est quasiment égal à zéro. Si vous avez une inflation à 0%, eh bien là, vous allez payer 3%.
Alors, les pays qui vont le mieux sont les pays qui ont le plus d'inflation.
Alors, voilà, c'est ça le souci. C'est que on s'est aperçu que depuis qu'on a créé la zone euro, les taux d'inflation n'ont pas vraiment convergé et qu'un certain nombre de pays, en particulier ceux qui étaient les plus dynamiques d'un point de vue économique, connaissent des taux d'inflation bien supérieurs à d'autres. Et on a même vu depuis la crise de la zone euro, un pays comme la Grèce, qui a eu un taux d'inflation négatif. Pourquoi ? Parce qu'il a pratiqué des politiques de dévaluation interne, donc de déflation des salaires, et donc on a eu une déflation des prix, de l'ensemble des prix. Et alors là, le problème qui se pose, c'est que la Banque centrale, qui veut avoir un taux d'intérêt unique pour tous les pays de la zone euro, pour toutes les banques des pays de la zone euro, eh bien, elle va se retrouver à ce que ce taux, par exemple, de 2% ou de 1%, bon, en ce moment, il est plutôt de 0%, pour un pays qui est en déflation, bah, ça va être un véritable taux d'intérêt, c'est-à-dire que le taux d'intérêt réel va être important, alors que pour un pays qui, lui, a connu de l'inflation, eh bien, il peut avoir des taux d'intérêt négatifs.
Ce que vous dites, c'est que la politique monétaire favorise les pays qui vont bien aux pays en difficulté.
Mais alors, le pire que ça, c'est que même les pays qui vont bien, ils risquent de se retrouver dans des systèmes de bulles, parce que favoriser le crédit à des taux négatifs, ça peut être dangereux. C'est-à-dire que les gens peuvent trop emprunter. Et derrière cet amas de crédit qui va se faire dans ces pays donc qui sont les plus dynamiques, il va y avoir effectivement une partie croissance, mais il va y avoir aussi une partie risque. Et inversement, alors si du coup la Banque Centrale Européenne décide d'augmenter ses taux pour supprimer le risque qu'il y ait trop d'emprunts dans ces pays, eh bien elle risque de pénaliser les pays qui, eux, ont une inflation faible, voire une inflation négative. Et donc, en fait, c'est la quadrature du cercle. On ne peut absolument pas mener la même politique monétaire dans des pays, certains qui sont en croissance, d'autres qui sont en récession.
Et le problème, c'est que les pays ne peuvent pas effectivement agir sur ces taux-là, et ils ne peuvent pas non plus avoir recours à la dévaluation. Et alors là, ça pose d'autres problèmes, David Kéry.
Alors, déjà, la Banque Centrale décide de manière indépendante, donc effectivement, il n'y a pas de négociation politique pour savoir quel taux d'intérêt on doit prendre. C'est une décision souveraine de la Banque Centrale Européenne.
Ce qui pose d'autres questions démocratiques sur lesquelles on va revenir.
Mais alors ensuite, l'autre question, mais c'est une question un peu différente, c'est que lorsque les pays ont des systèmes économiques qui divergent, qui sont différents, certaines économies exportent davantage que d'autres. Normalement, dans un système économique normal, on a des taux de change qui s'ajustent. C'est-à-dire qu'un pays qui a peu d'exportations, qui a une balance commerciale déficitaire, va se retrouver à avoir une monnaie qui va baisser. Et ça va lui permettre de rendre ses exportations moins coûteuses, moins chères à l'achat, et donc de favoriser sa balance commerciale. Hein, le taux de change, c'est un système de qui permet en quelque sorte, naturellement, si je puis dire, de rééquilibrer les balances commerciales.
Et l'Italie et la France, il y avait eu énormément recours après la Seconde Guerre mondiale.
En particulier pour l'Italie, qui s'est développée dans toutes les années 60 avec une monnaie, la lire, qui n'a cessé de se dévaluer. Et ça n'a pas été mauvais pour l'économie italienne. Je veux dire, les dévaluations ne sont pas toujours des catastrophes. Hein. Ça peut être des outils extrêmement utiles, notamment pour l'Italie qui était spécialisée dans l'industrie, on va dire, bas de gamme ou milieu de gamme. Et bien évidemment, cet outil de flexibilité disparaît à partir du moment où on a tous la même monnaie. Mmh. Et donc là, on va avoir un autre mécanisme de divergence, c'est-à-dire que les pays les moins industrialisés, c'est-à-dire qui auraient besoin de dévaluer pour relancer leurs exportations, ils n'ont plus cet outil. Donc à la fois, on a l'outil des taux d'intérêt qui est uniforme et donc qui ne permet pas d'avoir la nécessaire flexibilité qu'il faudrait pour des économies qui sont très différentes les unes des autres. Et en même temps, la politique de change, on ne l'a plus non plus. Et donc là, se pose la question d'une zone euro qui fait diverger, qui avantage les pays les plus riches et qui désavantage les plus pauvres.
Et puis pour revenir à cette question...
C'est la zone euro toute seule qui fait diverger. Hein. De toute façon, c'est inhérent à une zone monétaire. Si les pays qui ont fait la... Je pense que d'abord, les gens qui ont fait la zone monétaire de l'euro n'ont pas compris ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se donne la même monnaie, il faut qu'on mène les mêmes politiques. Si on mène des politiques divergentes, si l'Allemagne réduit ses coûts de production au début des années 2000, quand la France fait les 35 heures et augmente ses coûts de production, il est clair qu'on va vers une divergence de compétitivité.
C'est pour ça que vous dites qu'il faut un gouvernement économique et pas seulement une gouvernance économique.
Il faut un gouvernement économique qui conduise les mêmes politiques à l'intérieur de la zone. Mais même si on a un gouvernement économique, si vous prenez les 50 États américains, vous aurez quand même toujours des divergences. C'est pour ça que vous avez besoin d'un budget, parce qu'on le sait, c'est la nature des choses qu'on ne pourra pas corriger les différences de compétitivité. Donc il faut un budget qui permette de redistribuer automatiquement. Si vous avez par exemple au Texas une crise et que ça va très bien en Californie, la Californie, si ça va très bien, va payer plus d'impôts au gouvernement fédéral et le Texas va recevoir plus de subventions ou de prestations sociales. Donc ça contribue à rééquilibrer les économies de chacun des États américains. Nous ne l'avons pas en Europe et c'est ça la nouvelle très importante de 2018-2019. La moitié nord de l'Europe, on a eu ce débat pendant une quinzaine d'années et tout le monde était assez flou. Là, maintenant, c'est très, très clair. Vous avez eu 8 pays de l'Europe du Nord qui ont dit les pays hanséatiques parce qu'ils ressemblent à peu près au périmètre des anciens pays hanséatiques. En mars 2018, on dit niette. On ne fera jamais de budget. On ne veut pas financer les salopards du Sud qui bossent pas. C'est comme ça qu'ils pensent. Hein. Quand il y a eu des crises en France, il y a eu des pleines pages dans les journaux allemands. Il faut comprendre de leur point de vue, mais il faut comprendre la violence de leur point de vue, des journaux allemands qui disaient on ne fera pas de budget commun à l'Union européenne parce que les Allemands ne vont pas aller à la retraite à 67 ans pour payer la retraite en France à 62 ans. Donc les questions monétaires, elles sont totalement couplées aux questions de politique économique et aux questions sociales. C'est pour cela qu'on ne peut pas avoir un ensemble monétaire dans lequel il y a des règles sociales différentes.
Mais ces questions de solidarité, Christian Saint-Étienne, elles sont revenues aussi en force avec la crise financière de 2008. Et ce qu'on reproche souvent à l'euro, c'est de n'avoir pas suffisamment protégé l'Europe de la crise financière venue des États-Unis. Je vous donne quelques chiffres. Entre 2008 et 2013, le PIB de la zone euro a baissé de 0,3% par an et celui de l'Union européenne a stagné, alors qu'il progressait de 0,8% par an aux États-Unis à la même période. Alors si l'Europe s'en est moins bien sorti que les États-Unis, ce serait la faute de l'euro. Qu'est-ce que vous en pensez, David Kellar?
Alors, c'est pas que de la faute de l'euro. Alors là, vous prenez quand même la période la pire, hein, c'est-à-dire 2008-2013. Depuis 2013, la zone euro a retrouvé en moyenne, en tout cas, de la croissance.
Mais de façon moins forte.
Moins forte que les États-Unis. Mais quand on compare les deux entités, ce qui est intéressant, c'est en fait que les États-Unis, ils ont mené une double politique keynésienne. Je dis double parce que à la fois une relance budgétaire extrêmement élevée. Pendant les trois années, hein, 2009, 2010, 2011, ils ont eu un déficit public, hein, fédéral supérieur à 10% du PIB. En France, on n'est jamais arrivé, enfin en France, pardon, en zone euro, on n'a jamais dépassé les 6%. Dès 2011, dès 2010, oui, non, je parle de la zone euro, dès 2010, eh bien, on a commencé à négocier, la Commission européenne a demandé aux pays de restreindre leur déficit. Et donc, premier élément de différence, c'est que, alors c'est pas que lié à la zone euro, c'est lié aux politiques budgétaires qui ont clairement pas été des politiques de relance. Et puis aussi, là, c'est lié un peu à la zone euro, c'est-à-dire que le quantitative easing, il a été mis en place dès le début par la Réserve fédérale.
Pour les auditeurs ce que c'est que le quantitative easing.
C'est-à-dire des facilités de paiement qu'on accorde aux banques. Et puis le rachat, alors, en Europe, ça a pris cet effet-là, mais ça a été assez tard. Au pire moment de la crise de la zone euro, la Banque centrale a commencé à racheter des titres de dette publique pour faire baisser les taux d'intérêt de l'ensemble des États européens. Donc ça a été mis en place, le financement direct de la Banque centrale, on va dire, en rachetant des actifs, de racheter, c'est-à-dire des titres de créance de l'économie réelle, ça a été mis en place quasiment dès le début.
C'est les politiques monétaires qu'on dit non orthodoxes.
C'est-à-dire, parce que normalement la Banque centrale n'est pas censée agir sur l'économie réelle, elle est censée uniquement prêter de l'argent aux banques, et là elle a commencé, alors non pas à prêter directement, mais à racheter des actifs financiers, ce qui permet de redonner de l'argent, en quelque sorte, à l'économie réelle.
Mais ça pose la question, en tout cas, de la responsabilité de l'euro, effectivement, dans le fait que le poids économique global de la zone euro est fortement reculé entre 2008 et 2017 par rapport à la Chine, aux États-Unis, à l'Inde, Christian Saint-Etienne.
Oui, c'est plus compliqué que ça, parce que je pense qu'on se trompe sur la façon dont on présente la zone euro. La zone euro, là, c'est juste une zone monétaire, et l'euro n'est qu'une monnaie. Et une monnaie, c'est la partie émergée d'un iceberg. Mmh. Si vous n'avez pas une organisation politique et sociale commune, la monnaie, ce n'est pas un instrument qui va conduire vers cette politique commune. Au contraire, par nature, elle conduit à la divergence. Et le deuxième point, c'est que quand on réfléchit à la zone euro, il faut bien comprendre qu'elle n'a rien d'irréversible et que tout le monde l'analyse comme n'ayant rien d'irréversible. Si l'Oklahoma est en difficulté aux États-Unis, personne pense que l'Oklahoma va sortir des États-Unis. Ici, si la Grèce est en difficulté, on pense qu'elle peut sortir. Si l'Italie est en difficulté, on pense qu'elle peut sortir. Et vous avez personne aux États-Unis, en Illinois, qui dit on voudrait faire un Illinois exit. On va pas sortir des États-Unis. Mais vous avez dans tous les pays européens des partis qui disent on va sortir. Donc vous avez une construction qui d'abord n'a pas les ingrédients de sa réussite. Il y a trois ingrédients clés qu'on a évoqués, c'est-à-dire le budget, la coordination fiscale et sociale et bien sûr le gouvernement économique. Mais en plus, il y a une incertitude sur la volonté des gens de continuer sur la durée. Et donc, quand vous avez une crise, elle, au lieu d'être spécifique et limitée dans le temps, elle met en cause l'existence de la zone elle-même à chaque fois. C'est ce qui explique en grande partie que nous n'ayons pas les effets de synergie à l'intérieur de la zone euro qu'on devrait avoir du fait d'avoir créé une zone euro. Mais en réalité, on assigne à la zone euro et à la construction monétaire des demandes qui sont celles qui vont avec un État fédéral. Mais l'euro n'est pas en soi une construction fédérale. C'est juste un instrument technique.
Justement, Christian
et donc,
Saint-Etienne,
l'absence de construction fédérale fait que l'euro ne peut pas se substituer à l'absence d'unité politique. C'est ça qui est très important.
Face à ces difficultés, Christian Saint-Etienne, comment l'euro peut tenter de se réformer? On en parle dans un instant.
Un euro par jour, ça pèse pas lourd sur le poids de la balance. Dans la balance commerciale, qui n'a pas de frontières, y a pas d'excédent de capital. Quand on se promène en loc et en sandales, loin du cœur du centre commercial, y a pas de surface, ni de mots, ni de phrases assez grandes. Quand on a la peau qui colle aux glandes, un euro par jour et toute la mer à boire. Un euro par jour et toujours rien à manger. On pèse pas lourd quand on n'a plus rien que la peau sur les os et les yeux pour pleurer. Un jour c'est ouvert, un jour c'est fermé, un jour pour dormir et la nuit pour rêver. Mais comment fait-on pour entrer? Qui passe le premier? Mais qui a la clé? Pour traverser l'océan à la nage africaine, c'est le courant qui les emmène. sur une plage de fortune, dans un radeau de galères aux frontières de l'espace Schengen. Oh, un euro par jour et toute la mer à boire. Un euro par jour et toujours rien à manger. On pèse pas lourd quand on n'a plus rien que la peau sur les os et les yeux pour pleurer. Un euro par jour et toute la mer à boire. Un euro par jour et toujours rien à manger. On pèse pas lourd quand on n'a plus rien que la peau sur les os et les yeux pour pleurer.
Un euro par jour de Valium Valt sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Christian Saint-Etienne et David Guéla sont toujours avec nous pour parler de l'avenir de l'euro. L'euro à qui l'on reproche souvent ça.
Un kilo de carotte, c'est pas grand-chose. 1,50€.
C'est plus cher qu'avant, selon vous?
Bien sûr, un kilo de carotte, ça fait 10 francs. Avant, on payait beaucoup moins cher à un kilo de carotte, je peux vous le dire.
Depuis le passage à l'euro, les jeux à 5 francs sont passés à 1 euro. Les jeux à 10 francs à 2 euros. Ils ont arrondi pour que ça fasse un compte rond d'euros et non pas de centimes.
L'euro a-t-il entraîné une hausse des prix, David Guéla? C'est une question ancienne.
Ben oui, c'est une question qu'on entend tout le temps. Et malheureusement, elle est fausse. Enfin, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais la réalité, c'est que l'inflation, en réalité, a diminué depuis l'introduction de l'euro. Notamment depuis 2002, où on a vraiment des prix en euros qui touchent la vie quotidienne. En fait, évidemment, on entend des gens qui sont évidemment aussi de bonne foi, qui comparent les prix d'aujourd'hui avec les prix d'avant, en disant « regardez à quel point l'inflation était importante ». Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que, premièrement, l'inflation existait déjà aussi du temps du franc. Elle était même supérieure, c'est-à-dire que les prix augmentaient encore plus vite. Et puis, il y a aussi une autre illusion, c'est-à-dire qu'on ne se souvient plus des prix de 2002. On compare souvent les prix d'aujourd'hui, non pas avec les prix de 2002, mais avec les prix de certains des années 90, des débuts, parfois des années 80 quand on est un peu plus âgé. Et donc forcément, la référence qu'on a est fausse en fait.
Là que l'euro est un coupable facile.
Ben oui, c'est-à-dire, j'invite les auditeurs à aller voir le site internet France Inflation, qui montre l'évolution de prix de la baguette de pain et même les taux d'inflation calculés par l'INSEE. Et ils verront que les taux d'inflation étaient extrêmement élevés à la fin des années 70 et au début des années 80, que le taux d'inflation ensuite a baissé, mais qu'en moyenne, avant l'introduction de l'euro, on était à environ 2,4% d'inflation. Et depuis l'euro, eh bien, on est à 1,4% d'inflation, donc une inflation beaucoup plus faible.
Et ce que vous dites qui est intéressant, David Guéla, c'est que c'est précisément cette inflation trop faible qui pose problème. C'est-à-dire que ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que la hausse des prix n'entraîne pas automatiquement une baisse du pouvoir d'achat.
Exactement, parce que le pouvoir d'achat, c'est la comparaison de deux ensembles, l'inflation d'un côté et puis la hausse des salaires et des revenus de l'autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les revenus sont déterminés par des prix, et y compris le salaire lui-même est un prix. Ceux qui sont touchés par l'inflation et ceux qui gagnent et ceux qui perdent ne sont pas les mêmes personnes. Concrètement, une personne qui est un actif, qui va voir ses revenus dépendre des prix, en général, il est en fait assez peu touché par l'inflation. Un emprunteur, lui, en fait, il peut même gagner de l'argent par l'inflation puisque ça diminue le poids de son remboursement, surtout s'il a emprunté à taux fixe, qui est le cas pour la majorité des Français. Alors qu'au contraire, les rentiers, les créanciers, ceux qui ont prêté, ceux qui sont inactifs, eux peuvent subir des pertes avec une hausse de l'inflation.
Et du coup, en maintenant une inflation assez faible, finalement, on privilégie les créanciers aux débiteurs.
C'est-à-dire que, concrètement, le taux d'inflation n'est pas politiquement neutre. Lutter contre l'inflation à tout prix, ce qui est en fait un peu au cœur de la politique de la Banque Centrale Européenne, puisqu'elle est elle-même inspirée des politiques de la Bundesbank, c'est faire un choix politique, le choix plutôt de favoriser les rentiers plutôt que les emprunteurs. Et il faut bien comprendre que les emprunteurs, ceux qui empruntent et qui créent l'activité économique, sont aussi beaucoup les entreprises. Les entreprises, parfois, elles sont plutôt contentes d'avoir une inflation élevée parce qu'elles vont pouvoir vendre plus cher leurs produits et leur coût financier, lui, va être diminué.
C'est vrai si les taux sont quand même suffisamment élevés.
Ah oui, bien sûr, on ne parle pas de...
Parce que les Allemands, aujourd'hui, ils diraient l'inverse. Les Allemands se plaignent très violemment depuis plusieurs années du fait que eux qui sont rentiers, puisqu'ils ont un taux d'épargne colossal et un excédent de la balance courante colossal, se plaignent que les taux sont trop faibles. Et en fait, les taux actuellement sont inférieurs au taux d'inflation et ils sont inférieurs. C'est un élément de la théorie monétaire et ça entraînerait des discussions très longues. Mais normalement, le taux d'intérêt, il doit être le taux nominal doit être à peu près au niveau du taux de croissance nominal ou le taux réel doit être à peu près au niveau réel. Là, on a un taux d'intérêt nominal dans l'Union européenne qui est à zéro, alors que la croissance nominale, elle tourne autour de 2,5-3. Donc, quand vous êtes un pays créancier comme l'Allemagne, vous avez l'impression de vous appauvrir. Donc,
oui, mais il s'agit des taux d'intérêt de la Banque centrale, parce que les taux que les ménages empruntent sont parfois supérieurs.
Oui, mais les Allemands prêtent de facto au taux de la Banque centrale, puisqu'une grande partie de l'épargne allemande passe par le système.
Oui, mais l'État allemand emprunte à des taux négatifs aujourd'hui. Donc, quelque part, c'est aussi un bénéfice pour les Allemands.
Et le problème, c'est que sans inflation, le seul mécanisme auquel les États peuvent avoir recours pour regagner de la compétitivité, David Kella, c'est de mener une politique d'austérité avec toutes les conséquences que ça a sur les populations.
Eh bien, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans un système de... alors, si je reprends la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est dans l'espace, dans la zone euro, concrètement, on ne peut pas mener des politiques de change. Concrètement, on a des crises qui sont parfois spécifiques, parce qu'il faut bien comprendre ça aussi, c'est que l'unification économique européenne n'a pas empêché, et je pense qu'il faudrait qu'on en parle, des crises ponctuelles d'arriver. C'est-à-dire concrètement, on a eu un effondrement de l'économie grecque, mais ça n'a pas empêché l'Allemagne d'engranger de la croissance. Et donc, évidemment, la réponse à ça, c'est comment fait-on ? Et comme on ne veut plus dévaluer les monnaies, eh bien, on va imposer, donc être obligé, hein, de la part de gagner en compétitivité en baissant les prix, et donc en ayant une inflation négative. La baisse des prix permet, du coup, de vendre moins cher, et donc, théoriquement, de rattraper c'est-à-dire après une période douloureuse, on va dire, de pouvoir rattraper par ses exportations et de relancer son activité économique.
Mais elle a un coût social très important.
Mais le problème, c'est qu'elle a aussi un coût économique. Parce que quand tous les prix baissent et que les revenus des gens baissent, eh bien, ils vont moins consommer. Et en réalité, l'exportation, c'est bien, mais la demande interne, c'est bien aussi. Et en fait, moi, ce que je me suis aperçu quand j'ai regardé ce qui s'est passé en Grèce notamment, après ces politiques d'austérité très fortes qui ont été menées pendant la tutelle de la Troïka, eh bien, c'est que, en fait, l'industrie grecque s'est effondrée. Elle n'a pas gagné beaucoup en exportation, elle a beaucoup perdu en demande interne. Et donc, en fait, ça aussi, ça ne fonctionne pas.
Oui, si là, justement, dit interne, c'est-à-dire celui qui doit être fait pour compenser le fait qu'on ne peut pas modifier le taux de change, s'il est trop violent, ça peut casser les dynamiques internes. Mais on en revient toujours à la même question, c'est que, au fond, l'euro, c'est une laisse. Hein, on parle de la laisse comme si on parlait du chien. Ce sont deux choses différentes. Donc, la monnaie, dans l'absolu, ce n'est jamais rien d'autre que la monnaie d'un ensemble économique et politique cohérent. C'est pas le cas. Nous n'avons pas d'ensemble économique et politique cohérent.
Et alors, face à ces difficultés, il y a eu des velléités qui ont pu être exprimées. On en parlait au début de cette émission, de sortir de l'euro. Mais aujourd'hui, on a le sentiment que les conséquences économiques d'une sortie de l'Europe seraient a priori plutôt dissuasives. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été réalisées sur ce sujet, David Kella.
Alors, si on parle de sortie de l'euro ou de l'Europe, c'est pas tout à fait pareil. Mais de mon point de vue, en fait, ça revient un peu au même. Parce que concrètement, aujourd'hui, il n'est pas prévu de mécanisme pour sortir de l'euro. Un pays comme la France, alors la Grèce pourrait, enfin des petits pays pourraient éventuellement sortir de l'euro. D'ailleurs, il en a des questions pendant la crise de 2015.
La Grèce a renoncé à le faire justement
en
2015.
Voilà. Alors on sait qu'il y a eu des vrais plans hein, de sortie de l'euro qui ont été mis en œuvre par le ministre de l'économie et des finances, Yanis Varoufakis, aidé d'ailleurs par un économiste hétérodoxe que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle James Galbraith. Voilà. Mais par contre, un pays comme la France qui sortirait de l'euro, ça serait une catastrophe. Concrètement, catastrophe, alors attention, hein, entendez-moi bien, catastrophe pour le fonctionnement actuel de l'Union européenne. C'est-à-dire concrètement, ça serait un choc énorme qui, de mon point de vue, obligerait la France à sortir de toutes les règles européennes, et notamment la liberté des mouvements de capitaux, notamment l'indépendance de la Banque centrale. Enfin, tout ça, on oublie, quoi. Et quelque part, on est obligé de tout restructurer l'économie. Et ça me semble incompatible avec l'idée de rester dans l'Union européenne. D'autant plus qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on change de monnaie, on change aussi les libellés des dettes. Or, les Français sont pas endettés uniquement avec des Français. Ils peuvent être endettés vis-à-vis de créanciers étrangers.
Et donc, le problème, ça alourdirait considérablement le poids de la dette.
Alors, ça dépend comment on négocie les choses. C'est-à-dire que si on dit aux étrangers, écoutez, on va vous rembourser en francs et non plus en euros, évidemment, ils vont pas être contents. Si on dit on va vous rembourser en euros mais qu'on n'a pas les moyens de rembourser en euros parce que le franc diminue, alors dans ce cas-là on fait défaut et dans ce cas-là, là aussi ils sont pas contents. Et donc au final, ça crée des tensions extrêmement fortes et ça désorganise profondément toute l'économie.
Christian Saint-Etienne, sur les conséquences économiques d'une sortie de l'euro.
En fait, fondamentalement, tout dépend quand vous regardez tous ceux qui qu'on proposait depuis 10 ans de sortir de l'euro, que ce soit en Grèce ou ailleurs, tout dépend de ce qui est écrit dans d'autres chapitres de leur discours, c'est-à-dire est-ce qu'on va rembourser la dette ou pas. Le problème central, c'est que
rembourser la dette, si
c'est ça.
Le problème central, c'est qu'on est endetté. Alors, c'est un point clé pour les auditeurs. L'euro, pour nous, c'est une monnaie étrangère. C'est pas une monnaie nationale. C'est pas nous qui déterminons la politique de l'euro. C'est pas nous qui déterminons son taux de change. Donc pour nous, ça fonctionne exactement comme une monnaie étrangère. La raison fondamentale pour laquelle les Américains ont mené une politique différente, c'est parce qu'ils ont des orientations différentes sur ces questions-là, mais c'est aussi fondamentalement parce que le dollar est leur monnaie et l'euro n'est pas la monnaie d'aucun des pays membres. C'est pour tous les pays membres, c'est une monnaie étrangère.
Mais justement,
et quand vous
Christian
êtes endetté,
c'est un point important.
Sur ce point, quand vous êtes endetté en euros, si vous sortez et que vous introduisez une monnaie nationale, pour faire simple, si elle se dévalue de 50%. Votre dette en euros va doubler. C'est pour ça qu'un pays faible, un pays qui, en sortant, aurait une monnaie qui se déprécie, ne peut pas sortir. C'est pour ça que la Grèce, fondamentalement, n'est pas sortie. Quand vous regardez ce que disait le Front National au moment où il souhaitait partir, et Mélenchon, à un moment donné, avait le même discours, et vous lisiez un autre chapitre du programme, on vous disait « on ne remboursera pas la dette ». D'ailleurs, pourquoi ils ont arrêté de le dire? C'est parce qu'en réalité, une partie de la dette est détenue par les Français à travers leur assurance vie et que pas rembourser la dette, ça veut dire pas rembourser l'assurance vie. Et puis, il y a la dette détenue par les investisseurs étrangers. Mais donc, sur ce point, c'est ça qui est clé. Et quand on va évoquer l'avenir de l'euro, on y reviendra. En revanche, un pays fort peut sortir.
Oui.
Et donc l'Allemagne pourrait sortir. Et de fait, l'Allemagne a préparé des plans pour sortir si un jour il y a un problème.
Oui, alors je nuancerai parce qu'un défaut, en fait, ça veut dire qu'on remet tout à plat. Ça ne veut pas dire qu'on ne rembourse pas toutes les dettes. C'est-à-dire que justement, ce qui s'est passé par exemple en Islande, hein, c'était intéressant parce qu'ils étaient dans une situation où ils avaient aussi des dettes, notamment vis-à-vis d'étrangers. Et ils ont décidé de rembourser les dettes aux nationaux et de ne pas rembourser les dettes des étrangers.
C'était très particulier.
Mais je pense que si la France devait sortir de la zone euro.
On va laisser finir.
Oui, mais c'était très particulier à l'Islande. On ne peut pas en l'utiliser comme
un
principe.
Je dis juste que un défaut, globalement, alors défaut souverain en particulier, c'est toujours une renégociation. C'est-à-dire concrètement, même l'Argentine, lorsqu'elle a fait défaut, elle n'a pas dit « je rembourse rien », elle a dit « je rembourse au niveau d'un tiers ». Et après, il y a un autre mécanisme qui peut être mis en place pour évidemment sauver les épargnants français, c'est distinguer l'épargne nationale de l'épargne étrangère. Et le problème, c'est que ça crée des problèmes politiques après. Oui, et c'est ça qui fait... Moi, je ne crois pas que techniquement, la sortie de la zone euro soit impossible. Je pense d'ailleurs que sans doute qu'on va y arriver d'une manière ou d'une autre plus tard et dans un scénario sans doute qui ne sera pas très facile à vivre dans la période transitoire. Mais concrètement, techniquement, c'est pas le problème. Le problème, c'est politiquement. Comment on fait vis-à-vis de nos partenaires? Parce que Christian Saint-Etienne a raison. Une partie des dettes sont libellées auprès d'agents étrangers. Et que ceux-là, si on leur dit, écoutez, on ne vous rembourse pas parce qu'on n'a pas les moyens, ils ne vont évidemment pas être contents. Mmh. Donc il faut entièrement réorganiser tout ça et refaire de la diplomatie.
C'est pas seulement qu'ils vont pas être contents, c'est que dans un contexte comme le nôtre, ils vont attaquer devant les tribunaux.
Et oui, mais c'est pour ça.
Et donc ils vont ordonner des saisies. Donc ça va entraîner un blocage total du système économique.
Mais c'est exactement ce que je dis.
Et donc dans l'histoire, c'est pour ça que je pense qu'un pays faible ne peut pas sortir, surtout quand c'est un pays comme la France, où en plus on a eu un système bancaire qui est très endetté en dollars, et auprès du système européen de banque centrale. Donc on fait totalement exploser le système bancaire, ce qui n'était pas le cas de l'Argentine, qui était de facto un pays qui fonctionnait essentiellement à base d'exportations agricoles. Et sur l'Islande, c'est un cas aussi particulier parce que il y avait deux banques anglaises qui étaient responsables de l'endettement extérieur de l'Irlande et ils n'avaient pas été clairs dans les contrats qu'ils avaient signés avec les épargnants irlandais. Mais nous ne pourrions pas utiliser ces clauses-là et on se retrouverait en frontal. Et on a oublié que même dans le cas de l'Argentine, il y a des fonds qui avaient racheté la dette argentine et qui sont allés devant les tribunaux américains qui ont demandé le remboursement au nominal et ils ont été soutenu par la Cour suprême des États-Unis.
Oui.
Donc un pays comme le nôtre aurait des difficultés extrêmes. Mais ce qui est très important, c'est ce que je disais tout à l'heure, en revanche, un pays fort comme l'Allemagne peut sortir. Pourquoi? Parce que si demain ils réintroduisaient l'équivalent d'un mark, le mark se réévaluerait vis-à-vis de l'euro et eux eux n'auraient pas ces problèmes. Et de fait, il est possible qu'un jour, c'est en tout cas ce que je pense, la situation actuelle du sud de la zone euro soit intenable, surtout si une nouvelle crise arrive. Et donc ça ne sera pas les pays du sud qui sortiront. Mais je vous prédis que ce qui se passera à ce moment-là, c'est que soit consciemment, soit inconsciemment, mais ça peut être une politique voulue extrêmement de nature machiavélique, ça sera de pousser l'Allemagne à sortir.
Et moi, je pense autrement. Je pense qu'on va remettre à plat toutes les dettes s'il y a une crise financière, parce que de toute façon, la sortie va être nécessaire pour certains pays faibles. Moi, je ne crois pas que la France soit un pays faible au même niveau que l'Argentine ou l'Islande, mais ça, on peut en débattre. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est bien de souligner. Ce qui est bien
intéressant aujourd'hui, on arrive.
Ce qui est intéressant, c'est de bien souligner que la question de la monnaie et la question de la dette sont liées. Voilà, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais moi, je pense que la question des dettes se négocie toujours.
Non, vous citiez tout à l'heure, Christian Saint-Etienne, s'il vous plaît.
La France n'est pas un pays faible comme l'Argentine ou l'Islande, mais en revanche, nous sommes beaucoup plus internationalisés. Ce qui pour nous serait beaucoup plus dévastateur.
C'est bien noté. Je voudrais qu'on entende. Vous citiez tout à l'heure David Kella, l'économiste James Galbraith. Écoutons-le.
Je crois qu'il faut réformer le système monétaire européen pour sauver l'Union européenne. Je crois que faute de cela, faute d'un système qui soit plus flexible, qui donne à certains pays la possibilité d'ajuster les taux de change et d'ajuster leurs dettes d'une façon peut-être aménagée par la Banque centrale européenne ou par une institution européenne qui permet cela tel que cela a été permis par le système Bretton Woods après la Deuxième Guerre, vous aurez des problèmes qui deviendront insolubles. Les systèmes monétaires internationaux ne sont pas créés pour exister en permanence. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on a changé ça depuis un siècle et demi. Alors, on n'est pas en mesure de supposer qu'on a créé quelque chose qui doit exister en permanence.
Voilà l'économiste James Galbraith sur France Culture le 28 avril 2016. On peut et on doit réformer le système monétaire européen, Christian Saint-Etienne ?
Évidemment, mais ce n'est pas dans le sens qu'évoquait Galbraith à l'instant. Ça, c'était le fonctionnement de Bretton Woods, mais c'était une période où nous avions des parités séparées. Donc là,
qu'est-ce que vous voulez dire par
moment,
parité séparée ?
Chaque pays avait son taux de change. Mmh. Et donc on pouvait effectivement dévaluer, ce qui n'est plus possible. Donc en fait, on a créé une monnaie unique, mais à partir du moment où on n'a pas constitué un pays avec cette monnaie, eh bien, les fragilités font que les crises vont se multiplier. La solution, alors il y a 2 solutions. Soit on fait exploser le système, parce que ce que propose Galbraith, c'est la destruction du système. On peut le souhaiter, mais c'est un autre sujet. Soit on peut souhaiter maintenir l'euro. Et vous disiez vous-même, les interrogations, les sondages qu'on fait auprès des peuples pousse plutôt en faveur de l'euro, mais dans ce cas, il faut accepter d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de créer les instruments de la réussite de l'euro, c'est-à-dire de mettre en place un budget. Mais oui, si on ne met pas en place un budget, si on ne met pas en place un gouvernement économique, il n'y aura pas de substitut à l'explosion.
Oui, David, moi, je ne crois pas à la solution du budget. Alors, mais c'est bien ce que je pense aussi. D'une part parce que quand on a des budgets fédéraux, eh bien on ne résout pas le problème. Je pense par exemple à l'Italie. Hein, je veux dire, les écarts entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud n'ont jamais pu être résolus malgré l'unification du pays. Par ailleurs, quand on pense aussi à la Belgique par exemple. Hein, je veux dire, le fait qu'il y ait 2 économies dans Belgique fait qu'on a supprimé au contraire toute solidarité financière entre les deux entités. Donc politiquement, c'est très compliqué à mettre en œuvre et économiquement, ça ne marche pas. Et je voudrais juste souligner la dernière chose, parce que l'harmonisation fiscale, qui était demandée par Christian Saint-Etienne tout à l'heure, moi, j'y crois pas non plus. Parce que, pourquoi ? Parce que, regardez ce qui s'est passé en Irlande. Regardez ce qui s'est passé en Irlande. L'Irlande a officiellement un taux d'impôt sur les sociétés de 12,5%, mais ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, ils ne pratiquent pas ces taux-là. C'est-à-dire qu'ils dérogent à leurs propres impôts, parce qu'ils essaient d'attirer le capital. Et le problème, c'est que, oui, c'est totalement intolérable, mais le problème, c'est que pour organiser une vraie fiscalité, il faut un fisc européen. Et là, on arrive sur quelque chose de politiquement qui est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas faire confiance au fisc irlandais pour taxer les entreprises irlandaises si sa stratégie, c'est d'attirer les grosses entreprises sur son territoire.
Et on se heurte toujours à la question de l'intégration européenne.
C'est pour ça que sans intégration européenne, l'euro est voué à aller à la destruction.
Mais il est voué à la destruction en tous les cas, à mon avis.
Et bien, ce sera le mot de la fin.
Ce qui est dommage, parce que je continue de dire qu'il y a une alternative. Peut-être pas avec la totalité des pays actuels. Il est très vraisemblable qu'on va assister à des reconfigurations massives de la construction européenne dans les années qui viennent.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Hier, les États membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur la nouvelle liste noire des paradis fiscaux.
Mais oui, créée en 2017 suite aux multiples scandales financiers et fiscaux, des Panama Papers aux Malta Files en passant par les Paradise Papers, cette liste fait l'inventaire des nations non coopératives en matière de lutte contre la fraude fiscale. Elle évolue donc chaque année pour améliorer, je cite, la bonne gouvernance en matière fiscale à l'échelle mondiale. Concrètement, l'Union s'appuie sur trois critères pour établir cette liste. Les juridictions doivent ainsi respecter le principe de transparence fiscale et accepter les échanges d'informations avec les autorités européennes. Elles doivent ensuite respecter le principe d'équité fiscale et ne pas favoriser les montages offshore sur leur territoire. Et enfin, lutter contre les pratiques d'évasion fiscale permettant aux multinationales de déplacer leurs bénéfices vers des territoires faiblement taxés.
La première mouture de cette liste noire comprenait ainsi 17 noms parmi lesquels les Bahamas, la Namibie, la Tunisie ou Macao.
Exactement, mais la plupart de ces pays ont depuis quitté le classement en prenant des engagements jugés crédibles par l'Union en matière de lutte contre la fraude fiscale. Il ne restait ainsi plus que 5 pays dans la liste européenne, les Samoa, Guam, Trinité et Tobago, les îles Vierges et les Samoa américaines. Mais hier, les ministres des Finances de l'Union européenne se sont mis d'accord sur 10 nouveaux noms, une discussion qui fut, paraît-il, pour le moins houleuse, car parmi ces nouveaux arrivants figurent les Émirats Arabes Unis, avec qui l'Italie entretient d'excellentes relations commerciales. Mais à part ce puissant partenaire de la péninsule arabique, les États européens se sont donc contentés d'ajouter les noms de petites nations insulaires au poids économique pour le moins secondaire, à savoir les îles Marshall, les Bermudes, Fidji ou encore la Barbade. Pas question de faire entrer dans cette liste les géants de l'évitement fiscal que sont les États-Unis avec le Delaware, la Suisse ou Hong Kong.
Pas question non plus, Arjuna, de citer des États membres de l'Union européenne.
Non, bien sûr, pas question de froisser les amis autour de la table. Il y a pourtant plus d'un pays qui, au cœur même de l'Europe, répond aux critères de cette liste noire. À commencer par le Luxembourg, les Pays-Bas ou l'Irlande qui mettent ouvertement en œuvre des stratégies de dumping fiscal pour attirer les sièges de puissantes multinationales. Mais l'Union affirme que des mesures existent déjà pour remédier à ces problèmes de concurrence fiscale. La liste est donc entièrement tournée vers des menaces extérieures représentées par des pays tiers. Arrow donc sur Guam et sur le Vanuatu, feu sur Samoa et les Bermudes, empressons-nous de dénoncer les agissements de ces pirates de la fiscalité plutôt que de sonder nos propres eaux à la recherche de corsaires bien propres sur eux. Tout cela ressemble en réalité à une vaste mascarade, à un contre-feu savamment orchestré, à grand renfort de déclarations pugnaces et de listes implacables pour masquer le fait que sur le fond, rien n'est fait.
Ainsi, selon Oxfam, certains pays sont tout simplement trop puissants pour être listés.
Exactement, l'agitation bruxelloise acte donc une nouvelle fois son incapacité formelle à se mettre d'accord et à s'organiser pour véritablement peser. Ainsi, non seulement la liste européenne ne pointe que des acteurs de moindre importance, mais en prime, les sanctions associées sont tout à fait dérisoires. Ainsi, sur le plan financier, les fonds accordés par l'Union aux États blacklistés, au titre par exemple du Fonds de développement durable ou du Fonds d'investissement stratégique, pourront toujours être versés, mais seulement sous la forme d'investissements directs et non plus par le biais d'entités implantées sur place. La Commission enjoint également les États membres à prendre individuellement des sanctions qu'ils estiment adaptées, mais aucune interdiction de commercer avec les nations incriminées, aucune sanction collective. En clair, courage, fuyons.
On se quitte avec les New Pornographers, Play Money. Merci beaucoup Christian Saint-Etienne et David Kella de nous avoir aidés à y voir plus clair sur les réussites et les failles de l'euro. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages respectifs. Christian Saint-Etienne, Osons l'Europe des Nations, paru aux éditions de l'Observatoire, et David Kella, 10 plus une question sur l'Union Européenne, aux éditions Michalon. On se retrouve demain pour une émission consacrée à la démocratie en Europe, vaste sujet. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.